Alors ce matin, c'est pas forcément extrêmement élaboré, mais je vais vous parler de mon cœur et de ce que Dieu m'a montré et qui bouillonne en moi et que j'aimerais qu'il puisse bouillonner autant en vous. J'aimerais qu'on parle de ce livre. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Dites-moi. La Bible, on peut l'appeler autrement. La parole de Dieu, les Écritures. On peut lui donner plein de noms. Mais c'est vrai. C'est la parole de Dieu. Ok, c'est la parole de Dieu et on vous dit dans toutes les églises qu'il faut la lire, qu'il faut apprendre à la connaître. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut lire cette parole? Pourquoi est-ce qu'il faut le connaître? Pourquoi est-ce qu'on apprend des versets par cœur? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a donc de spécial dans ce livre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? Alors oui, c'est la parole de Dieu. Et c'est important de connaître la parole de Dieu. Parce que Jésus nous a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces paroles sont un jour sorties de la bouche de Dieu. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu, il continue de parler. Alors je vais même dire aussi qu'une personne ne vivra que de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vraiment, je me sens ébahie par ce que tu as raconté, parce que ben voilà, j'ai juste dit ce que je ressentais, que Dieu voulait te dire. Et tu as vécu à travers de ces paroles pendant 9 mois. Wow. C'est incroyable ça, non? Et je sais que parfois c'est difficile en fait. Et je suis la première. Et c'est pour ça que je me suis donné des baffes plusieurs fois en étudiant ça. C'est parce qu'on a tendance à délaisser un petit peu. Oh, j'ai pas le temps, il faut que je prie, il faut que je lis un petit verset. Allez, le verset du jour, ça ira. Et puis il y en a d'autres. Et je les admire qui font un plan pour lire la Bible en entier en un an. Alors là, bravo. Parce que moi, j'ai essayé, je n'y suis jamais arrivée. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas lu toute la Bible. Simplement, en un an, c'est compliqué. Et puis, il y a des passages qui inspirent mieux que d'autres. Hein? On va dire ce qui est. Parce que les nombres, n'est-ce pas, et toutes les batailles à gauche, à droite et au milieu, bon, moi, ça ne m'inspire pas. Alors pourquoi le lire comme ça? En fait, je vais raconter une histoire, en fait. Et c'est un petit peu à partir de ce moment-là que ça a un petit peu ma quête a commencé. Je me souviens quand nous avions notre ministère, on organisait tous les ans un week-end de jeunes. Et on voulait imprégner les jeunes de la présence de Dieu. On voulait qu'ils soient complètement immergés dans sa présence. Et qu'ils puissent apprendre à vivre dans sa présence. Et je me souviens qu'après un repas, à midi, il y a un jeune qui est venu me voir et qui me dit: Ouais, tout le monde dit qu'il faut lire la Bible, mais alors moi j'adore ces moments où je suis dans la présence de Dieu, c'est super fort. Et j'apprends à connaître Dieu et il me libère, et j'ai l'impression d'être libéré, d'être un homme nouveau, tout ça, c'est super génial. Mais alors lire la Bible, alors ce jeune d'une vingtaine d'années, pour lui, lire, c'était une corvée. Ah, il y a certaines générations qui s'est nourrie de mangas, de dessins animés, et les réseaux sociaux, les trucs courts, vite fait. Mais alors lire un livre, ah, c'est dur. J'étais là, Seigneur, à l'aide! Comment je lui réponds? Le Seigneur m'a montré. Il m'a dit: Tu sais, dans ce livre, il y a plein d'histoires de gens qu'ont vécu ces choses-là que tu lis là. Hein? Moïse qui a amené tout le pays à traverser la mer Rouge. Mais pour lui, c'était la vérité, c'était sa vie. Et la mer s'est vraiment écartée et il a vraiment marché. Non. Si c'est là pour toi, c'est pas parce que tu es une belle histoire, qu'il y ait une belle morale à la suite, et que ça reste planté là. Non. Toutes les aventures que ces gens ont vécues, elles sont là pour te faire envie, pour que tu les vives toi. Ce que Dieu veut au travers de ce livre, c'est te faire connaître qui il est. Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et la vie, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et c'est là, Seigneur m'a dit, la parole est la vie. Qui est la parole? Christ est la parole. Ce que tu veux nous révéler dans ce livre, c'est celui qui l'a écrit. Je vais juste mentionner de temps en temps quelques versets. Il y en a un qui... Voilà, si j'arrive à ouvrir mon téléphone. Voilà. C'est Hébreux 1, verset 3. Jésus est le Fils de Dieu. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Dieu, au travers de ce livre, veut nous faire connaître qui il est vraiment. L'expression parfaite. Qu'on connaisse celui qui est. Celui qui a écrit un livre qui transcende toutes les histoires, les petites histoires qui sont écrites. Comment est-ce qu'on peut vivre ça? Je t'écoute, il m'a dit, mais comment est-ce que tu veux que je vive ça? Je dis, tu as rencontré le Saint-Esprit là? Ben, demande-lui de t'emmener dans une aventure. Et j'aimerais vous encourager, la prochaine fois que vous prenez votre Bible, dire, Saint-Esprit, emmène-moi dans une aventure avec toi. Emmène-moi dans les profondeurs de qui tu es. Parce que c'est ça le but, en fait. C'est de découvrir son cœur, de découvrir sa personnalité, de découvrir son caractère, de découvrir ses plans, de le connaître lui. Paul, il avait toute la connaissance, c'était un érudit, hein, de tout ce qui était l'Ancien Testament, tous les enseignements, il les connaissait. Il connaissait tout ça par cœur. Et en plus, il était d'une famille d'emblée, tout ce que vous voulez. Mais il a dit, tout ça, je le regarde comme des déchets. Comme bon à mettre à la poubelle. En comparaison de la connaissance de Christ. Apprendre à connaître Christ, c'est plus que toute autre chose. Apprendre à connaître le Père, parce que Christ est l'exacte représentation du Père. L'expression parfaite de son être. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. C'est le rayonnement de sa gloire. J'aime bien, moi, quand j'ai dit la Bible, quand je lis, regarder plusieurs traductions. Parce qu'on y apprend toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose qui va ressortir, parce qu'il y en a un qui met un accent sur une chose, puis un autre qui va regarder autrement. Ce n'est pas par hasard que la Bible a été écrite dans deux langues extrêmement riches, l'hébreu et le grec. Et quand on veut regarder à l'intérieur, on découvre des choses, mais qui nous dépassent. Et il y a une chose, le mot qui revenait sans arrêt dans ma tête, c'était le tout début du verset 12 d'Hébreux 4. La parole de Dieu est vivante. Et c'est le mot vivant qui me sautait à la figure. Alors, ben j'ai regardé dans le grec. Oups, c'est pas la bonne page. Littéralement, alors le mot est vivante, donc c'est un participe, participe passé actif en grec. Mais ça veut dire que c'est actif. C'est le côté actif, moi, qui m'a... C'est pas le fait que ce soit passé ou présent, vivant, c'est que c'est actif. Et donc, le mot, c'est « zone », je suis pas érudit en grec, c'est littéralement vivre, être parmi les vivants, sans, ni sans vie, ni mort. Mais surtout de jouir de la vie réelle. C'est-à-dire avoir une vie vraie et digne de ce nom. Ouh, c'est intéressant ça. Métaphoriquement, on parle de l'eau vive, c'est-à-dire une eau qui bouillonne, qui jaillit, qui coule, qui rafraîchit. Puis surtout, un des aspects du mot vivant, c'est qu'il y a la puissance vitale en elle-même. Et elle l'exerce. Autrement dit, non seulement qui vit, mais qui donne la vie, qui vivifie. Tout de suite. Alors bien sûr, zone, ça vient du... C'est un dérivé du nom Zoé. Hein, la vie. Et il y a une des définitions de ce mot, c'est-à-dire qu'il y a la plénitude absolue de la vie. Une vie réelle et authentique. Alors moi, ça me donne, je ne sais pas si vous, mais moi je vois beaucoup en images. Moi ça me donne des images. De ce fleuve qui bouillonne, de ce torrent qui bouillonne, qui est plein de vie. Pour moi, ça me parle de quelque chose d'abondant. Quelque chose de qui est là, qui n'est pas limité à un mot sur une page, mais qui a de la profondeur, qui a quelque chose qui jaillit, comme un geyser, quelque chose qui produit la vie. Un être vivant, il bouge, il fait quelque chose, il donne la vie puisqu'il se multiplie. Ça parle d'abondance. Ça parle de la vie d'en haut. La vie de mon Père, de la vie de Jésus. Ça me parle de la vie de l'Esprit, l'abondance de vie. Chaque mot, chaque lettre de ce livre est là pour donner la vie. Il est là pour communiquer la vie d'en haut, pour transformer, afin que nous puissions jouir et vivre de la vie d'en haut. Je ne veux pas attendre d'être morte avant de jouir de la vie d'en haut, parce que je l'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis assise avec Christ dans les lieux célestes. Aujourd'hui, j'ai part à la divine nature. C'est beaucoup dire, mais je ne vais pas aller plus loin. J'ai part à quelque chose qui va au-delà de ma nature humaine. J'ai quelque chose que Dieu a planté en moi et qui veut faire grandir pour m'amener à la ressemblance de son Fils. Pour m'amener à être co-héritière avec lui. Pour m'amener à être un fils, une fille, à proprement parler. Pas juste une servante. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne connaît pas les affaires de son père. Il les a appelés amis, parce qu'il leur a ouvert, il leur a fait connaître le Père. Il leur a fait connaître les choses du royaume. Mais Dieu veut plus que des amis. Dieu veut des fils. Dieu veut des filles qui ressemblent à Christ. Je ne veux pas dire des clones, ok? On ne sera jamais Dieu, mais on aura toujours quelque chose de sa nature en nous. Et c'est cette vie-là que Dieu veut nous communiquer dans ce livre. Il y a tellement de choses qui nous ébahissent. Et pendant longtemps, surtout pendant des années, je lisais la Bible et il y a certains passages. Pour moi, surtout les épîtres de Paul, c'était de la littérature. J'y comprenais rien. Enfin, pour moi, c'était des effets de style, vous savez. Comme quand on étudie la littérature à l'école. Voilà. Il y a les poètes, il y a les trucs qui ont leurs effets de style. Et pour moi, c'était ça. Voilà. La louange de sa grâce. Ok. C'est gentil, mais ça ne veut rien dire pour moi. Et puis un jour. Enfin, depuis en fait que j'étais convertie, je lisais les Actes des Apôtres et je disais « Oh, ça je veux waouh, Pierre, qui guérit un paralytique, oh, mais ça je veux le faire, c'est trop chouette ça !» Et puis Paul, qui a entendu lui parler, « Ah, oh, ben, je veux l'entendre, ça je veux le vivre !» Il a des visions, il a des rêves, un Macédonien qui vient le voir pendant la nuit, oh, moi, je voudrais avoir ça. Je veux trop vivre ces trucs-là. Mais je veux le vivre. Je ne veux pas juste le connaître là-dedans. Je veux que ça fasse partie de moi. Et j'ai eu tellement soif. Dieu m'a amené auprès de gens qui m'ont dit, attends, ce que tu veux, c'est... Tiens, regarde, tu devrais lire ce bouquin. Alors, je ne fais pas la pub pour son bouquin, mais c'est juste parce que ça s'est passé pour moi en lisant ce livre, Bonjour Saint-Esprit. Et je peux vous dire qu'il n'était pas question que je le lise en une soirée. Un paragraphe à la fois, c'était largement suffisant. Parce que, waouh, le Saint-Esprit me parlait. C'était là, mais c'est tellement ce que je veux vivre. Mais c'est tellement ça. Et j'en étais là. Et quelques semaines après, ben voilà, Tipak Benin a une conférence. On habitait aux États-Unis à l'époque. Ah, conférence à 5 minutes en voiture de chez moi. Et la première réunion avec Benin, je sais pas. Enfin, j'ai un très vague souvenir de ce qu'il a prêché. En fait, c'est pas vraiment une prédication, parce qu'il parlait en fait de comment Dieu peut agir au travers d'un homme normal, même s'il ne se sent pas spirituel. Ok ? C'est pratiquement juste des exemples comme ça, pour dire aux gens, ça peut vous arriver à vous. Et moi, pendant ce temps-là, Dieu me parlait. Et pendant ce temps-là, à l'intérieur de moi, cette voix qui disait, tu seras sainte parce que je suis saint. Tu seras sainte parce que je suis saint. Mais je peux vous dire, ça m'a fait peur. Je voulais bien vivre les choses, mais alors la sainteté, telle que j'en avais la connaissance à l'époque, ce n'était pas vraiment ce que je cherchais. Mais immédiatement après, C'est comme si tout d'un coup je lisais les mêmes choses, et au lieu de que ce soit du noir et blanc sur une page, tout d'un coup ça prenait la profondeur, de la couleur, comment dire, de la consistance. Ça devenait tangible, réel. Je vivais des choses, j'expérimentais même dans mon corps sa présence, qu'il soit là, qu'il me touche. Et tout d'un coup, j'avais des paroles de connaissance qui me sortaient de nulle part. Tout d'un coup, j'avais des. Je priais pour quelqu'un, pour une guérison, alors que j'en ai prié pour des gens. J'en avais jamais encore vu un de guéri. Puis là, boum! Prière toute simple. Et hop, la personne est guérie. Tu veux que vous viviez la réalité de ce qu'il y a dans ce livre. Et il y a des endroits qui sont un peu chelous, hein? On va dire ça comme ça. Quand Ézéchiel voit des archanges, des séraphins, des roues avec des yeux et des roues qui sont dans des roues. Mais ça, c'est une réalité qui est dans le monde de Dieu. Je ne vous dis pas, c'est pas interdit d'aller voir, hein? Mais je crois que vous vous encouragez à prendre la Bible le matin et dire Seigneur, le matin, l'après-midi, le soir, peu importe, Seigneur, Saint-Esprit, emmène-moi dans une aventure avec toi. Et s'il se trouve que votre passage, c'est le moment où David tue Goliath, et lui coupe la tête. Bon. Ça veut dire quoi, du cœur du Père? Ça. Ça veut dire que tes ennemis, il va s'en occuper, les traiter comme ça. Et ce n'est pas des hommes, des femmes ou des gens, hein, tes ennemis, c'est ta dépression, c'est ta maladie, c'est ton chômage, c'est ta mésentente avec la famille, c'est. Qu'est-ce que Dieu veut te dire au travail de ce passage? Et pas seulement te dire, mais j'aimerais t'inviter à lui dire, fais-moi rentrer dedans. Fais-moi rentrer dans ce qui est écrit. Parce qu'il y a quelque chose de vivant pour moi, pour me donner la vie. La vie d'en haut. Et je veux y goûter, je ne veux rien rater. Même si je lis la moitié d'un verset. Mais si il produit une vie en moi que je n'avais pas. Tant pis si c'était prévu que je lise trois chapitres. C'est pas grave. Parce que ça a plus d'effet, ça a plus de fruits que toutes les lectures du monde. C'est pour ça que j'ai jamais réussi à lire la Bible en un an, avec tous ces. Parce que moi, je veux en tirer tout. Et comme quand on mâche, on digère. Il faut que j'en retire tout, tout ce qu'il y a dedans. En fait, quand on parle de mâcher, tout ça, vous savez que méditer la parole de Dieu, c'est exactement ça. C'est comme les ruminants qui font revenir et qui mâchent et qui remâchent et qui remâchent pour en extraire tous les nutriments, pour tout sortir de là. Est-ce que vous êtes arrivé de méditer la parole de Dieu? Pas juste de la répéter. Oui, ça aide. Mais en fait, c'est décortiquer pour tout ce qu'il y a. Et souvent, moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu de musique de louange en fond. Et je prends un verset, une expression. Et puis, je dis, Seigneur, montre-moi. Et il y a des images qui viennent. Je me souviens qu'à une braise, on avait fait ça. avec psaume 1, verset 1. L'homme qui médite la parole, il est comme un arbre planté près des eaux paisibles. Et tous ensemble, on a vu ce que ça représentait. Et combien ont des images de racines qui se plongeaient dans la terre pour prendre tous les nutriments et qui allaient dans l'eau pour être rafraîchies, pour pouvoir grandir, pour pouvoir étendre son feuillage. Tout ça, tout le monde a participé, tout le monde a montré ce que Dieu lui montrait pour lui, pour elle. La parole de Dieu est vivante. C'est la vie qu'elle communique. Moi, la vie, ce n'est pas juste le fait de respirer et de marcher. Ça, c'est l'existence. Okay? La vie, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus riche. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. C'est toucher à la plénitude des choses, à la plénitude de qui Dieu est. La parole, c'est Christ. Et Christ est l'exacte représentation du Père. La nature, la substance même. Donc quand vous vous plongez dans ce livre, vous vous plongez dans la substance même de Dieu qui veut se révéler à vous. Et si je vous dis que je me suis donné des baffes, c'est parce que j'ai réalisé que je ne le faisais plus assez souvent. Alors je sais bien que quand on a 10 minutes, un quart d'heure tous les matins pour lire sa Bible, c'est compliqué. Mais je ne sais pas, une fois par semaine, prenez le temps, asseyez-vous et laissez-vous immerger. On a parlé tout à l'heure de cette eau qui bouillonne. Ça me fait penser au. Bon, ça m'a fait tout de suite penser au champ, vous savez, le fleuve de Dieu. Il bouillonne de vie. Et donc ça m'a ramené à Ézéchiel 47, et où il parlait du torrent qui coule depuis le trône, depuis l'autel devant le trône de Dieu. Où il décrit qu'elle va aller se jeter dans la mer, donc la mer morte. Et les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera. Il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas. Les eaux deviendront saines et il y aura la vie partout où arrivera le torrent. Alors des pêcheurs s'y tiendront et on tendra les filets et il y aura plein de poissons, plein d'espèces de poissons qui seront très nombreux. Les marais et les lagunes seront assainies. Et puis il y aura des arbres, toutes sortes d'arbres, fruitiers, dont leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront des primeurs tous les mois, car ces eaux sortiront du sanctuaire, du cœur même de Dieu. La vie que Dieu donne va vous amener à porter des fruits. Vous n'aurez pas à vous battre pour les porter. Parce que la vie que Dieu donne, elle amène à avoir des fruits. Et ils viendront seuls. Toute parole, tout ce qui est écrit est vivant. Et tout ce qui est et tout ce qu'elle touche devient vivant. Alors j'aimerais vous encourager à faire ça régulièrement. Allez chercher dans les profondeurs de la parole. Il y a plein d'autres choses que je pourrais vous dire, comment étudier la parole, mais ce n'est pas le sujet là. Parce que je suis sûre que si on l'étudie en plus, si on apprend à l'étudier, on en retire encore plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est d'apprendre à avoir ce réflexe. Saint-Esprit, emmène-moi jusqu'au cœur même de ces versets que je lis. Au cœur même. Et voir quel est le cœur du Père pour moi. Voir ce que Dieu a pour moi. Ce qu'il a déjà fait, ce qu'il m'a déjà donné, ce qu'il me donne maintenant, ce qu'il me donnera. Ce que Dieu désire pour que je devienne un fils, une fille qui ressemble à Christ. Que tout ce qui est là, écrit dans ce bouquin, devienne une source de vie qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Jésus a dit, l'eau que je vous donnerai deviendra une source, des fleuves d'eau vive qui couleront de votre sein. Des fleuves. Alors des fois, on a ces petites images d'un beau petit torrent, alors un petit peu plus grand. Ben non, il est parlé de fleuves au pluriel. Alors, alors qu'est-ce qu'on va dire ? On va prendre le Rhône, puisque c'est à côté de chez nous, et on va ajouter l'Amazon, qui n'est pas trop loin, le Mississippi, le Yangtze-Kiang, des fleuves. Voir l'abondance. L'abondance de vie que Dieu vous donne au travers d'un verset de sa parole. La parole de Dieu est vivante et efficace. Une autre traduction dit « La parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle est toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchement. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments, les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. » Wow. Voilà la vie que Dieu veut donner. Une vie d'abondance. Alors, pour terminer, je vais... juste passer 2-3 minutes. J'ai prié quelque chose que ce matin, le Seigneur, qui m'est venu ce matin. C'est une prière de Paul. Et pendant quelques instants, on va laisser le Saint-Esprit nous montrer. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? C'est ma prière pour vous. Mais commencez déjà. Saint-Esprit vient nous montrer. Ça se trouve dans Éphésiens 3. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Imaginez-moi ça, la richesse de sa gloire. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, chaque fois que vous lirez une parole, que Dieu vous révèle la richesse de sa gloire et vous fortifie dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Les pieds bien plantés, les fondements bien profondément dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 14 à 19. Je vous invite à rentrer chez vous et à méditer là-dessus. Je crois que si les choses sont écrites, les versets sont écrits, les mots sont dans un certain ordre, c'est pas pour rien. C'est peut-être qu'on a besoin d'être fortifié par sa gloire, afin que Christ habite en nous. On a peut-être besoin d'être enraciné dans l'amour à cause de Christ qui vit en nous. Et être enraciné dans son amour, c'est comprendre toutes les dimensions de son amour. Alors voilà. Peut-être que Dieu déjà vous donne des images. J'avoue que ce matin, quand j'ai reprendre les versets, oh, c'est la richesse de sa gloire qui m'a sauté. Ça faisait partie des expressions qui étaient très littéraires pour moi et qui ne voulaient rien dire. Et puis je me suis retrouvée devant le trône de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est l'émanation de sa personne. Et d'en regarder, d'en voir toute la substance tangible, toute la richesse. C'est tout ça que Dieu veut vous donner. Tout ça. Et c'est pas rien pour moi. C'est pour chacun d'entre vous. Or, celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment, sans fin, sans limite, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église, en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Merci Père, parce que tu ne nous as pas donné un petit salut tout étriqué, juste suffisant pour nous sortir de l'enfer. Mais tu nous as fait pénétrer dans un royaume d'abondance, un royaume de gloire, un royaume à ton image. Merci parce que tu veux nous faire découvrir, tout au long de notre marche avec toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être ton enfant. Merci parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit comme tuteur pour nous apprendre les affaires de notre Père. Merci parce qu'on peut goûter déjà aujourd'hui de l'immensité, de ta grandeur, de ta gloire, de ton amour, de ta passion, de tes plans. Merci parce que aujourd'hui, Seigneur, je veux à nouveau me consacrer à plonger dans les profondeurs de ta parole, dans les profondeurs de qui tu es. Parce qu'il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus satisfaisant. Il n'y a rien de plus édifiant que de te connaître, toi. Merci parce que tu as choisi de te révéler au travers de Jésus. Merci parce que tu as choisi, malgré nos faiblesses, malgré malgré nos péchés, malgré nos mauvaises tendances, tu as choisi de nous faire sortir de ce royaume de ténèbres pour nous emmener dans ta lumière. Seigneur, j'ai faim et soif de connaître cette lumière toujours plus, de connaître toujours plus les profondeurs de ton cœur, de connaître toujours plus celui qui m'a aimé d'un amour infini. Et je veux apprendre à l'aimer du même amour. Seigneur, que chaque parole, Saint-Esprit, vient accompagner chaque parole, chaque verset, chaque passage lu par mes amis ce matin, qui sont là ce matin. Seigneur, dès qu'ils ouvriront la Bible, Seigneur, que la vie vienne jaillir, vienne pétiller, vienne bouillonner à l'intérieur de ces passages. Elle vient transmettre